faire rire, c'est faire oublier. Si on écoute Victor Hugo, il y a de quoi considérer Charline Van Honecker comme une sacrée distributrice d'oubli. Mais n'est-ce pas l'oubli, justement, les amnésies des politiques, les contradictions, les éclipses qui nourrissent sa verve? Dans son travail, à la radio ou à la télé, elle tient à concilier la rigueur journalistique et l'humour, à mettre de l'humeur dans l'actualité, avec, je la cite, une épée en mousse dans la main pour chatouiller les orteils des puissants comme elle s'en amuse. Un rappel salutaire des vertus de l'humour qu'on retrouve dans l'ouvrage « Aux vannes citoyens », un petit essai d'humour politique qu'elle a publié aux éditions de Noël, une manière de documenter avec ironie l'écriture du rire. On retrouve l'humoriste, comme certains la décrivent en Belgique, dans cette saison 2 du « Qu'est-ce qu'il lit du monde des livres ?»
Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Charline Van Honecker.
Bonjour Judith.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans, faites lire, et nous allons en profiter pour découvrir vos goûts, mais aussi vos déceptions en matière de littérature, les livres et les écrivains de votre vie.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous recherchez en lisant ?
Je cherche une lecture alternative du monde, de soi, des autres. Je cherche à m'évader, je cherche à comprendre. Et je trouve que souvent, les écrivains sont des êtres extrêmement sensibles. Qui commencent à écrire sans doute quand ils ont accumulé une forme d'expérience. Et donc, je me nourris de leur expérience et de leur vision du monde et de soi.
Vous avez un premier souvenir de lecture ?
Oui, très précis. Je me souviens que, il me semble que le premier livre que j'ai eu en main, c'était Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Et j'ai un souvenir très, très, très précis. Comme une révélation, comme ça. Je pense que mes parents m'avaient laissé le week-end chez mes grands-parents. Ça arrivait très, très rarement. Et évidemment, comme tous les petits-enfants, et moi, je suis fille unique, donc j'y allais seule, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer. Et donc, je ne sais pas si c'est mes parents qui m'ont mis un livre dans les mains ou moi qui l'ai pris. Mais voilà, je me suis retrouvée avec Les Lettres de mon moulin. Et j'ai un souvenir, mais je suis marquée à vie par ce moment-là parce que je me vois encore dans le fauteuil chez mes grands-parents. Je vois d'autant plus que ma grand-mère a 100 ans et demi, elle vit toujours dans la même maison, il y a toujours le même fauteuil. Et donc quand je vais chez elle, je vois ce fauteuil, je me revois gamine, je sais plus quel âge j'ai, mais je suis très petite. Et je lis ce livre et waouh, je le lâche pas et le week-end passe à fond de balle. Et j'ai même le souvenir des images qui défilaient dans ma tête pendant que je lisais le livre. Je vois un petit lapin détalé avec son petit cul tout blanc et son pompon qui part comme ça dans la garrigue et qui tourne le dos au moulin d'Alphonse Daudet. Et là, je pense que j'ai découvert la lecture comme une révélation, comme un accélérateur de temps présent en plongeant dans une autre temporalité et dans la fiction. Et c'est comme si j'étais rentrée dans le livre et que j'avais plongé dedans.
Et la lecture d'Alphonse Daudet, ça a été un déclic pour lire davantage de votre côté ?
Après, j'ai plus de souvenirs. Je pense que ça m'a forcément amenée à lire d'autres choses, à aller dans la bibliothèque de mes parents, parce que mes parents sont professeurs de lettres. Donc forcément, il y a une grande bibliothèque, et même avec les livres, les classiques en double, parce qu'ils ont fait leurs études au même endroit, et donc les grands classiques, ils sont en double dans la bibliothèque. Donc je pense qu'après, je suis allée dans la bibliothèque, ce que je fais toujours. D'ailleurs, mes parents ont une grande collection de livres de poche. Mais alors, les vieux livres de poche, ceux où vraiment les couvertures sont hyper bariolées, hyper travaillées. Encore aujourd'hui, je m'amuse à aller en piocher. Et donc certainement que ça m'a amenée à d'autres lectures, mais là, j'ai un espèce de trou de mémoire. Je pense que j'ai eu une période dans ma vie où j'ai un peu abandonné les livres. Puis, j'y suis revenue parce que j'ai étudié les lettres aussi à l'université. Et puis, après, j'ai délaissé les livres. Et puis, j'y suis revenue. Les livres et moi, c'est une grande histoire d'aller-retour. Mais depuis quelques années, je pense que je peux plus m'en passer maintenant. Maintenant, ça y est.
Y a-t-il un livre d'enfance que vous aimeriez relire ?
Ce serait vraiment Les Lettres de mon moulin que j'aurais envie de relire. Sinon, ce serait l'un ou l'autre livre que mes parents me lisaient avant de dormir et que je finissais par connaître par cœur et on jouait les répliques à table.
Vous aimez offrir des livres et lesquels ?
Oui, j'adore. Alors, j'offre beaucoup un livre de Vargas Llosa qui s'appelle Le paradis un peu plus loin, qui est un livre que j'ai vraiment mais adoré par-dessus tout. Et qui est l'histoire de Flora Tristan, qui est la première féministe et ouvriériste, et qui est la grand-mère de Gauguin. Et donc, d'un chapitre à l'autre, on passe de la grand-mère à Gauguin, de la féministe à, bon, on sait quel a été le rapport aux femmes et aux très jeunes femmes de Gauguin. Donc, c'est assez troublant de lire les deux portraits en parallèle. Et donc, c'est un livre que j'offre beaucoup. Et d'ailleurs, il est venu dans mes mains par un hasard absolument fabuleux. C'est ça que je trouve magique dans les livres qu'on se transmet. C'est que le réalisateur de notre émission il y a des années, Benjamin Riquet, était parti en Thaïlande et il avait plus de bouquins. Et il était dans une maison d'hôte où il y avait un livre abandonné et il est tombé sur ce livre et il l'a trouvé fabuleux et puis il me l'a conseillé et voilà. Donc, il y a celui-là que j'offre. Ouais, c'est essentiellement celui-là quand même.
Y a-t-il un livre dont vous voudriez être l'héroïne?
Un Martine fait de la radio ou un Oui Oui fait de la radio?
Ça existe?
Non, je sais pas, je pense pas. Non, c'est une question difficile parce que maintenant il y a davantage d'héroïnes dans les romans, mais c'est vrai qu'on a toutes les femmes, on a toutes ce problème d'identification à des femmes qui soient des modèles, etc. Donc
et puis ou souvent les héroïnes sont... les héros existants.
Ouais, voilà. Oui, je pourrais, mais j'ai pas une fascination du héros ou de l'héroïne, et il faudrait que j'arrive dans un truc un peu marrant parce que je voudrais pas être dans du drame. Donc vraiment, je sèche sur cette question.
Vous préférez des livres qui font rire ou des livres qui vous font pleurer?
Je pense pas avoir pleuré devant un livre. C'est comme si j'arrivais à garder la distance par rapport au récit. Je me dis, c'est un récit, donc j'arrive à garder la distance. Rire, ça m'est déjà arrivé d'éclater de rire en lisant un livre. La dernière fois que j'ai éclaté de rire, c'était en lisant un livre d'Adeline Dieudonné, Kérosène, je crois. Alors là, j'ai vraiment éclaté de rire. Elle a vraiment imaginé des histoires. C'est vendu comme un roman, mais en réalité, je pense que c'est une série de nouvelles. Et il y a notamment une nouvelle où il y a un couple qui vient de se rencontrer. La jeune femme va pour la première fois chez ses beaux-parents pour dîner, et ses beaux-parents sont gynécologues et il l'oblige à d'abord passer un examen gynécologique. Il y a ça, une histoire de dauphin aussi, de dauphin qui essaye de violer une meuf dans le bassin. Enfin, j'ai vraiment éclaté de rire. Donc, mais je cherche pas dans les romans ou les récits, les livres en général, je cherche pas le rire. Moi, c'est marrant, c'est pas là que j'ai envie forcément de le chercher. Je cherche autre chose. Et pleurer, mais s'émouvoir, c'est pas ça que je cherche non plus. Donc, ça me paraît deux extrêmes vers lesquels je ne vais forcément pas... Ce n'est pas quelque chose que je cherche consciemment.
Et vous avez choisi un extrait, pour autant, de Pierre Desproges.
Dans un recueil de ses chroniques, j'aurais adoré, si je l'avais lu plus tôt, l'intégrer à mon petit essai sur le rire, avec toute la verve que je n'ai pas, hein, mais de Desproges, il écrit... Mais qui es-tu, zéro flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire. Un film, un livre, une pièce, un dessin qui cherche à donner de la joie. À vendre de la joie, faut pas déconner. Ça se prépare, ça se découpe, ça se polie. Une œuvre pour de rire, ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment. Je sais pas si tu vois ce que veut dire ce trou béant dans ta boîte crânienne. Molière, qui fait toujours rire le troisième âge, a transpiré à en mourir. Chaplin a sué, Guitry s'est défoncé, Woody Allen et Mel Brooks se sont fatigués souvent pour avoir eu 20 heures par jour la prétention de nous faire rire.
Desproges, ça pourrait être un auteur que vous aimeriez avoir pour relecteur de vos chroniques?
Oh, je pense qu'il serait féroce, je me trouverais nulle s'il me relisait. Et puis, le temps s'est écoulé entre sa manière d'écrire et les humoristes aujourd'hui. Il y a un trou béant, comme dans la boîte crânienne de l'interlocuteur de sa chronique. Il y a un trou béant entre lui et nous aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas de sens de comparer l'humour qu'on pratique maintenant à celui de Desproges. Aujourd'hui, dans le rire politique, il y a tellement de personnification et la société est tellement morcelée, la politique est tellement morcelée, il y a tellement de chapelles qu'on cible précisément des chapelles, on cible précisément des gens. Je pense que lui, comme Coluche, s'adressait à une élite en général, c'était le peuple ou le citoyen versus l'élite. Elle était globale. Maintenant, comme tout est morcelé, ça n'a plus de sens de faire comme ça. Il faut le faire autrement. Et donc, on ne peut pas comparer les deux.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si le rire politique avait perdu une part de son universalisme.
L'universalisme, on peut le trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'attaque aujourd'hui, de façon globale, quand même au patriarcat. Donc là, il y a un universalisme, un féminisme et un universalisme. On s'attaque de manière globale au pouvoir d'argent, donc il est toujours là. Mais le pouvoir politique, l'humour est un miroir de la société. Donc si la politique perd une forme d'universalisme, son miroir, qui est notamment l'humour, le perd aussi, c'est normal.
L'universalisme, dans la lecture, vous le cherchez ?
Encore une fois, je le cherche pas absolument, mais quand il affleure, il nous fait prendre conscience qu'on appartient à la communauté des hommes, et c'est toujours bien agréable. C'est quelque chose que je retrouve, par exemple, récemment dans les écrits de Claire Marin, qui sont plutôt des essais philosophiques. Elle a publié il y a un an un essai qui s'intitule « Trouver sa place ». Où elle explique que souvent, soit on est déplacé si on est réfugié, soit on a subi une rupture dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée, et ensuite il faut trouver une autre place. Il faut vivre avec une disparition, etc. Et donc ça, c'est un universalisme. C'est fait partie des livres qui aident à vivre, je trouve, ces livres-là. Ceux qui vous disent et qui vous rappellent que ce que vous vivez, vous êtes loin d'être le ou la seule à le vivre et qu'il y a une universalité là-dedans. Et c'est là où je reviens aux écrivains, aux romanciers, à l'expérience sensible qui nous rappelle la fragilité de l'homme dans le monde et qu'on est tous logés à la même enseigne.
Avez-vous un écrivain, une écrivaine que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
J'ai toujours pas lu Proust. Je trouve la question fascinante et elle me laisse un peu le bec dans l'eau parce que ça peut pas se résumer à un. C'est tellement immense et vertigineux comme question parce que ça traverse, c'est horizontal et vertical. C'est horizontal parce que là, on est au Salon du Livre du Mans et rien qu'à voir le nombre d'auteurs qui signent et le nombre de bouquins qui sont disponibles là, comme ça, dans l'instant, tout de suite, c'est vertigineux. Et si maintenant on prend dans le sens vertical et qu'on recule vers le passé, et qu'on peut peut-être reculer jusqu'à Aristophane, c'est tellement vertigineux qu'un seul, je ne peux pas vous répondre.
Et un livre récent que vous avez envie de lire ?
Alors, il y en a un, je trépigne de le lire, c'est Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Empoli. Comme je présente une émission de radio où je reçois beaucoup d'auteurs, mon année est généralement rythmée par les livres que je vais lire pour recevoir les auteurs. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai par exemple reçu récemment Alain Mabankou et j'adore Alain Mabankou et là je vais recevoir bientôt Sonia de Villers pour les exporter. Et donc pour l'instant Le Mage du Kremlin il m'attend.
Et donc là vous avez commencé la lecture des exportés de Sonia de Villers qu'on reçoit également dans Qu'est-ce
que tu lis ? Oui, donc je vous renvoie à son podcast alors, au podcast de Sonia si vous voulez connaître l'histoire un peu des exportés. Donc je commence à peine à le lire et c'est donc son histoire familiale, c'est un récit où grosso modo elle révèle, parce que quelques historiens le savaient bien sûr, mais le grand public ignorait que des juifs avaient été échangés contre des porcs en Roumanie. Et il y a un passage que je lis au tout début du livre et où là je me dis Sonia, qui est ma voisine de bureau en plus à France Inter, résume dans un paragraphe toute une vie, la vie de ses grands-parents, la vie de ses parents et la sienne. Et ça tient en un paragraphe absolument vertigineux qui montre à quel point l'histoire et la politique bouleversent nos vies et la bouleversent à travers des générations. Et donc, je vais vous lire un paragraphe, moi, qui me semble vertigineux parce que les mots permettent de résumer tout ça. Et c'est là tout le talent de l'écrivain. Donc, je découvre une écrivaine, Sonia. Alors, elle écrit... J'ai grandi avec un trou au milieu de l'Europe, une nation informe que je savais à peine situer, une tache au contour mouvant dans le grand bazar des républiques de l'Est, le théâtre d'un génocide dont mes grands-parents n'ont jamais parlé. Et j'ai grandi avec une mère si meurtrie par l'arrachement à la Roumanie que les sanglots empêchaient tout récit. Ses pleurs constituaient même une ligne de démarcation entre le présent et l'avant. Une herse, à l'instar de celle qui divisa l'Europe en deux blocs ennemis, l'Est dont elle fut et l'Ouest dont je suis. Tout est brouillé dans cet héritage immigré, profondément désorienté dans l'espace et dans le temps. Ainsi ai-je vécu avec ces deux inconnus que sont l'ailleurs et le passé. Longtemps j'ai été incapable de retenir une chronologie, de cerner les époques et de tracer une frontière, les cartes et les dates, mon grand brouillon intérieur. »
qu'on entend, c'est quand même le terrain assez glissant de l'appartenance entre Est, entre Ouest, entre aussi elle parle de religion dans ce livre. Et ça, c'est aussi ce que vous décrivez dans votre bouquin derrière les secrets de fabrication de votre chronique, entre la France et la Belgique. Vous jouez justement de cette, je vais dire, double appartenance. En même temps, vous n'avez pas la nationalité française. Mais est-ce que dans les livres que vous lisez, l'appartenance est parfois un fil conducteur, finalement?
L'appartenance, je ne crois pas, parce que moi, peut-être c'est parce que je suis belge, mais l'identité n'est pas quelque chose qui me travaille. Je sais que c'est une obsession française. Je comprends que ça puisse être une obsession pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'écrivains. Là, j'imagine que les exportés, ça résonne avec beaucoup de gens, de gens qui ont quitté l'Algérie. Ce qui me fascine dans cet extrait, c'est comment se mêle l'intime, la faille intérieure dont elle parle, et le comparatif avec le rideau de fer. C'est-à-dire l'intime, le micro, ce qu'on a en soi, et le macro, le monde, la résonance avec le monde. Moi, je suis passionnée par le mélange entre le politique et l'intime. C'est pour ça que je citais notamment Claire Marin, où il est question aussi de politique et d'intime, c'est-à-dire comment est-ce que le monde qui nous entoure nous façonne. J'ai lu récemment aussi Sophie Galabru, qui est une jeune philosophe qui a publié un ouvrage sur la colère, où elle explique que la colère, c'est à la fois intime et politique. Et ce va-et-vient entre l'intime et politique est une matière qui me passionne. Donc, pour en revenir à une de vos questions récurrentes, qu'est-ce qu'on cherche ? J'ai pas toujours l'impression de chercher les choses dans un livre. J'aime bien me laisser surprendre. Je l'ouvre et puis je suis pas venue chercher quelque chose, mais il m'apporte quelque chose.
Mais vous y trouvez.
Si je devais chercher quelque chose, ce serait le lien entre l'intime et le politique.
J'ai promis en introduction de parler de vos déceptions en littérature. Alors, est-ce que il y a un écrivain, une écrivaine que vous aimez lire, mais que vous ne voudriez pas avoir rencontré ou dont la rencontre vous a déçu?
Pas souvenir d'avoir été déçue par la rencontre avec un écrivain ou une écrivaine. Ça m'arrive dans d'autres domaines, je dirais plutôt dans le domaine du cinéma. Je pense que je m'arrange toujours pour inviter des auteurs dont j'ai aimé les livres ou dont on a aimé les livres avec Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod qui font les chroniques littéraires. Et j'ai l'impression que dans la littérature, il y a quelque chose qui ment moins ou qui ment pas. Je ne sais pas si ça ment pas, mais ça ment moins. C'est moins l'empire du fake. Ou alors si on sait que l'ouvrage est un peu fake, on n'invite pas, quoi. Et parmi les grands auteurs où j'ai eu des désillusions, moi, je me suis jetée sur Nabokov en me disant, un auteur majeur qui avait des chefs-d'œuvre, etc. Et j'ai plein de gens autour de moi qui sont fascinés par Lolita, par Ada, etc. Et moi, j'arrive pas à être fascinée. C'est une grande déception de se dire il y a un livre qui m'attend, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde m'en parle, tout mon entourage est pétri de ce roman. Donc je vais forcément, en l'ouvrant, passer des heures et des heures d'énormes kiffs et puis pas arriver à rentrer dedans et le finir et se dire bon, voilà.
Un peu comme la mécanique du rire quand quelque chose ne fait pas rire tout le monde.
Là, c'est l'ordre de la subjectivité et de ses référents intérieurs, quoi. Donc, quand on rit pas, c'est que c'est quelque chose qui vous touche énormément, qui est presque chez vous religieux, militant, etc. Face à Nabokov, j'ai rien de religieux, de militant. Sur la littérature extrêmement libérale sur les mœurs, etc., ça m'ennuie absolument pas, donc c'est pas ça qui m'a freinée. Donc je cherche ce qui m'a freinée, mais je sais pas si je le trouverai un jour.
Merci Charline Van Hennecker. Je rappelle le titre de votre livre, Aux vannes citoyens, petit essai d'humour politique aux éditions de Noël. Et on vous écoute du lundi au vendredi à 17h sur France Inter dans C'est encore nous et chaque jeudi dans la matinale. De mon côté, retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.